Chapitre 7, quatrième partie. Le pays s'élève en pente douce vers la chaîne des montagnes mongoles, qui toujours en avant de nous, grandissent rapidement dans notre ciel. Les arbres se font de moins en moins rares, l'herbe croît par places sans qu'on l'ait semée, et ce n'est bientôt plus le triste sol de cendres. Autour de nous, il y a maintenant des coteaux à la cime pointue, aux dessins tourmentés, et çà et là, sur les bizarres petits sommets, des vieilles tours sont perchées, de ces tours à 10 ou 12 étages qui font tout de suite décor chinois, avec la superposition de leurs toits courbes aux angles retroussés en manière de corne, une cloche éolienne à chaque bout. Et l'air de plus en plus se purifie de son nuage de poussière, à mesure que l'on s'approche de la région, sans doute privilégié, qui a été choisi pour le repos des empereurs et des impératrices célestes. Après le 12e kilomètre environ, halte dans un village, pour déjeuner chez un grand prince, d'un rang beaucoup plus élevé que celui qui chevauche avec nous. Oncle direct de l'empereur, celui-là, en disgrâce auprès de la régente, dont il fut le favori, est préposé aujourd'hui à la haute surveillance des sépultures. Étant en deuil austère, il s'habille de coton comme un pauvre, et cependant ne ressemble pas à tout le monde. Il s'excuse de nous recevoir dans le délabrement d'une vieille maison quelconque, les Allemands ayant mis le feu à son yamen, et il nous offre un déjeuner très chinois, où reparaissent des ailerons de requin et des nerfs de biche, tandis que les plates figures sauvages des paysans d'alentour nous regardent par les trous de nos carreaux en papier de riz, crevés de toutes parts. Aussitôt après la dernière tasse de thé, nous remontons à cheval, pour voir enfin ces tombeaux qui sont à présent là tout près et vers lesquels nous cheminons depuis déjà plus de 3 jours. Mon confrère de l'Académie de Pékin, qui nous a rejoints, toujours avec ses grosses lunettes rondes, son petit corps d'oiseau sec perdu dans ses belles robes de soie, nous accompagne aussi Cahin Caa sur une mule. Pays de plus en plus solitaire. Fini les champs, fini les villages. Le chemin pénètre au milieu de collines qui sont revêtues d'herbes et de fleurs, et c'est une surprise, un enchantement pour nos yeux déshabitués. Cela semble un peu édénique après toute cette Chine poudreuse et grise où nous venons de vivre et où ne verdissait que le blé des sillons. La perpétuelle poussière du Pechili, nous l'avons décidément laissée derrière nous. Sur les plaines en contrebas, nous l'apercevons comme un brouillard dont nous serions enfin délivrés. Nous nous élevons toujours, arrivant au premier contrefort de la chaîne mongole. Voici derrière une muraille de terre un immense camp de Tartares, au moins 2000 hommes armés de lances, d'arcs et de flèches, les gardiens d'honneur des souverains défunts. La pureté des horizons, dont nous avions presque perdu le souvenir, est ici retrouvée. Ces montagnes de Mongolie, semble-t-il, viennent soudainement de se rapprocher, comme si d'elles-mêmes elles s'étaient avancées. Très rocheuses, avec des escarpements étranges, des pointes comme des donjons ou des tours de pagode, elles sont d'un beau violet d'iris au-dessus de nos têtes. Et en avant de nous, de tous côtés, commencent de paraître des vallonnements boisés, des forêts de cèdres. Il est vrai, ce sont des forêts factices, mais déjà si vieilles, plantées il y a des siècles pour composer le parc funéraire de plus de 20 lieues de tours où dorment 4 empereurs tartares. Nous entrons dans ce lieu de silence et d'ombre, étonnés qu'il ne soit enclos d'aucune muraille, contrairement aux farouches usages de la Chine. Sans doute, en cette région très isolée, on l'a jugée suffisamment défendue par la terreur qu'inspirent les mânes des souverains, et aussi par un édit général de mort rendu d'avance contre quiconque oserait ici labourer un coin de terre ou seulement l'ensemencer. C'est le bois sacré par excellence, avec tout son recueillement et son mystère. Quel merveilleux poète de la mort sont ces Chinois qui lui préparent de telles demeures! On serait tenté, dans cette ombre, de parler bas comme sous une voûte de temple. On se sent profanateur en foulant à cheval ce sol vénéré depuis des âges, dont le tapis d'herbes fines et de fleurettes de printemps semble n'avoir été violé jamais. Les grands cèdres, les grands thuyas centenaires, parfois un peu clairsemés sur les collines ou dans les vallées, laissent entre eux des espaces libres où ne croisent point de broussailles. Sous la colonnade de leurs troncs énormes, rien que de courtes graminées, de très petites fleurs exquises et des lichens, des mousses. Cette poussière, qui obscurcissait le ciel des plaines, ne monte sans doute jamais jusqu'à cette région choisie, car le vert magnifique des arbres n'en est nulle part terni. Et dans cette solitude superbe que les hommes d'ici ont faite aux mânes de leur maître, quand le chemin nous fait passer par quelque clairière ou sur quelque hauteur, les lointains qui se découvrent sont d'une limpidité absolue. Une lumière paradisiaque tombe alors sur nous, d'un profond ciel discrètement bleu, rayé par des bandes de petits nuages d'un gris rose de tourterelle. Dans ces moments-là, on aperçoit aussi, au loin, de somptueuses toitures d'un émail jaune d'or qui s'élèvent parmi les ramures si sombres comme des palais de belles au bois dormant. Personne dans ces chemins ombreux, un silence de désert. À peine de temps à autre le croassement d'un corbeau, trop funèbre à ce qu'il semble pour les tranquilles enchantements de ce lieu où la mort a dû, avant d'entrer, dépouiller son horreur pour demeurer seulement la magicienne des repos qui ne finiront plus. Par endroits, les arbres sont alignés en quinconce, formant des allées qui s'en vont à perte de vue dans la nuit verte. Ailleurs, ils ont été semés sans ordre. On dirait qu'ils ont poussé d'eux-mêmes, comme les plantes sauvages, et on se croirait en simple forêt. Mais des détails cependant viennent rappeler que le lieu est magnifique, impérial et sacré. Le moindre pont, jeté sur quelque ruisseau qui traverse le chemin, est de marbre blanc, d'un dessin rare, couvert de précieuses ciselures. Ou bien quelque bête héraldique, accroupie à l'ombre, vous lance au passage la menace de son rire féroce. Ou bien encore un obélisque de marbre, enroulé de dragons à cinq griffes, se dresse inattendu, dans sa neigeuse blancheur, sur le fond obscur des cèdres. Dans ce bois de 20 lieues de tour, il y a seulement 4 cadavres d'empereurs. On y ajoutera celui de l'impératrice régente, dont le mausolée est depuis longtemps commencé. Ensuite celui du jeune empereur son fils, qui a fait marquer sa place élue d'une stèle en marbre gris. Et ce sera tout. Les autres souverains, passés ou à venir, dorment ou dormiront ailleurs, dans d'autres Édens, du reste aussi vastes, aussi merveilleusement composés. Car il faut énormément de place pour un cadavre de fils du ciel, et énormément de silencieuse solitude alentour. La disposition de ces tombeaux est réglée par des plans inchangeables qui remontent aux vieilles dynasties éteintes. Aussi sont-ils tous pareils, rappelant même ceux des empereurs Ming, antérieurs de plusieurs siècles, et dont les ruines délaissées ont été depuis longtemps un but d'excursion permis aux Européens. On y arrive invariablement par une coupée d'une demi-lieue de long, dans la sombre futaie. Coupée que les artistes d'autrefois ont eu soin d'orienter de manière qu'elle s'ouvre, comme les portants d'un magnifique décor au théâtre, sur quelques fonds incomparables. Par exemple, une montagne particulièrement haute, abrupte et audacieuse. Un amas rocheux, présentant une de ces anomalies de forme ou de couleur que les Chinois recherchent en toute chose. Invariablement aussi, la venue commence par de grands arcs de triomphe en marbre blanc, qui sont, il va sans dire, surchargés de monstres hérissés de cornes et de griffes. Chez l'aïeul de l'empereur actuel, qui reçoit aujourd'hui notre première visite, ces arcs de l'entrée, imprévus au milieu de la forêt, ont la base enlacée par les liserons sauvages. Ils semblent, au coup de baguette d'un enchanteur, avoir jailli sans travail d'un sol qui a l'air vierge, tant il est feutré de ces mousses, de ces petites plantes délicates et rares qu'un rien dérange, qui ne croissent que dans les lieux longuement tranquilles, longuement respectés par les hommes. Ensuite viennent des ponts de marbre blanc, arqués en demi-cercle, trois ponts parallèles, comme chaque fois que doit passer un empereur vivant ou mort, le pont du milieu étant réservé pour lui seul. Les architectes des tombeaux ont eu soin de faire traverser plusieurs fois l'avenue par de factices rivières, afin d'avoir l'occasion d'y jeter ces courbes charmantes et leur blancheur quasi éternelle. Chaque balustre des ponts figure un enlacement de chimères impériales. Les longues dalles penchées y sont glissantes et neigeuses, encadrées par une herbe de cimetière qui pousse et fleurit dans tous leurs joints. Et le passage est dangereux pour nos chevaux, dont les pas résonnent tristement sur ce marbre. Le bruit soudain que nous faisons là, dans ce silence, nous cause d'ailleurs presque une gêne, comme si nous venions troubler d'une façon inconvenante le recueillement d'une nécropole. À part nous et quelques corbeaux sur les arbres, rien ne bouge et rien ne vit dans l'immensité du parc funéraire. Après le pont aux triples arches, l'avenue conduit vers un premier temple à toit d'émail jaune qui semble la barrer en son milieu. Aux quatre angles de la clairière où il est bâti, s'élèvent des colonnes rostrales en marbre d'un blanc d'ivoire, monolithes admirables, au sommet de chacun desquels s'assied une bête pareille à celle qui trône sur les obélisques devant le palais de Pékin. Une espèce de maigre chacal, aux longues oreilles droites, les yeux levés, et la gueule ouverte comme pour hurler vers le ciel. Ce premier temple ne contient que trois stèles géantes, qui posent sur des tortues de marbre grosses comme des léviathans, et qui racontent la gloire de l'empereur défunt, la première en langue tartare, la seconde en chinois, la troisième en mandchou. L'avenue, au-delà de ce temple des stèles, se prolonge dans son même axe, indéfiniment longue encore, majestueuse entre ses deux parois de cèdres aux verdures presque noires et recouverte par terre d'un tapis d'herbes, de fleurs, de mousses, comme si on n'y marchait jamais. Toutes les avenues dans ce bois sont habituées au même continuel abandon, au même continuel silence, car les Chinois ne venaient ici qu'à de longs intervalles, en cortège respectueux et lent, pour accomplir des rites mortuaires. Et cet air de délaissement, dans cette splendeur, est le charme de ce lieu unique au monde. Quand les Alliés auront évacué la Chine, le parc des tombeaux, qui nous aura été ouvert un moment, redeviendra impénétrable aux Européens pour des temps que l'on ignore, jusqu'à une invasion nouvelle peut-être, qui fera cette fois crouler le vieux colosse jaune. À moins qu'il ne secoue son sommeil de 1000 ans, le colosse encore capable de jeter l'épouvante, et qu'il ne prenne enfin les armes pour quelque revanche à laquelle on ose songer. Mon Dieu, le jour où la Chine, au lieu de ses petits régiments de mercenaires et de bandits, lèverait en masse, pour une suprême révolte, ces millions de jeunes paysans tels que ceux que je viens de voir, sobres, cruels, maigres et musclés, rompus à tous les exercices physiques et dédaigneux de la mort, quelle terrifiante armée elle aurait là, en mettant aux mains de ces hommes nos moyens modernes de destruction. Et vraiment, il semble, quand on y réfléchit, que certains de nos alliés aient été imprudents de semer ici tant de germes de haine et tant de besoins de vengeance. Là-bas, au bout de l'avenue déserte aux verdures sombres, le temple final commence de montrer son toit d'émail. La montagne au-dessus, l'étrange montagne dentelée qui a été choisie pour être comme la toile de fond du morne décor, monte aujourd'hui, toute violette et rose, dans une déchirure de ciel d'un bleu rare, d'un bleu de turquoise mourante, tournant au vert. La lumière demeure exquise et discrète, le soleil voilé sous ces mêmes nuages couleur de tourterelle. Et nous n'entendons plus marcher nos chevaux sur le feutrage épais des herbes et des mousses. On voit maintenant les grandes portes triples du sanctuaire qui sont d'un rouge de sang avec des ferrures d'or. Encore la blancheur d'un triple pont de marbre aux dalles glissantes sur lesquelles ma petite armée recommence de faire en passant un bruit exagéré, comme si ces rangées de cèdres en muraille autour de nous avaient les sonorités d'une basilique. Et à partir d'ici, pour garder ces abords de plus en plus sacrés, de hautes statues de marbre s'alignent des deux côtés de l'avenue. Nous cheminons entre d'immobiles éléphants, des chevaux, des lions, des guerriers muets et blancs qui ont trois fois la taille humaine. Dès qu'on aborde les terrasses blanches du temple, on commence d'apercevoir les dégâts de la guerre. Les soldats allemands, venus ici avant les nôtres, ont arraché par places, avec la pointe de leurs sabres, les belles garnitures en bronze doré des portes rouges, les prenant pour de l'or. Dans une première cour, des édifices latéraux, sous des toitures aussi somptueusement émaillées que celles du grand sanctuaire, étaient les cuisines où l'on préparait à certaines époques, pour l'ombre du mort, des repas comme pour une légion d'ogres ou de vampires. Les énormes fourneaux, les énormes cuves de bronze où l'on cuisait des bœufs tout entiers sont encore intactes. Mais les dalles sont jonchées de débris de céramique, de cassons faits à coups de crosse ou de baïonnette. Sur des terrasses de plus en plus hautes, après deux ou trois cours d'allées de marbre, après deux ou trois enceintes aux triples portes de cèdre, le temple central s'ouvre à nous, vide et dévasté. Il reste magnifique de proportion, dans sa demi-obscurité, avec ses hautes colonnes de laque rouge et d'or. Mais on l'a dépouillé de ses richesses sacrées. Lourdes tentures de soie, idoles, vases de libation en argent, vaisselle plate pour les festins des ombres, avait presque entièrement disparu quand les Français sont arrivés, et ce qui restait du trésor a été réuni en lieu sûr par nos officiers. Deux d'entre eux viennent même d'être décorés pour ce sauvetage par l'empereur de Chine, et c'est là un des épisodes les plus singuliers de cette guerre anormale. Le souverain du pays envahi décorant spontanément, par reconnaissance, des officiers de l'armée d'invasion. Derrière ce temple, enfin, est le colossal tombeau. Pour enfouir un empereur mort, les Chinois découpent un morceau dans une colline, comme on taillerait une portion dans un gâteau de titan, l'isolent par d'immenses déblais, et puis l'entourent de remparts crénelés. Cela devient alors comme une citadelle massive, et dans la profondeur des terres, ils creusent le couloir sépulcral dont quelques initiés ont seuls le secret. Là, tout au bout, on dépose l'empereur, non momifié, qui doit se désagréger lentement dans un épais cercueil en cèdre laqué d'or. Ensuite, on mure à jamais la porte du souverain par une sorte d'écran, en céramique invariablement jaunes et vertes, dont les reliefs représentent des lotus, des dragons et des nuages. Et chaque souverain, à son heure, est enseveli et muré de la même façon, au milieu d'une zone de forêt aussi vaste et aussi solitaire. Nous arrivons donc au pied de ce morceau de colline et de ce rempart, arrêtés dans notre visite par le lugubre écran de faïence jaune et verte qui sera le terme de notre voyage de 40 lieues. Un écran carré d'une vingtaine de pieds de côté, encore éclatant de vernis et de couleurs sur les grisailles des briques murales et de la terre. Ici, les corbeaux, comme s'ils devinaient la sinistre chose qu'on leur cache au cœur de la montagne taillée, sont groupés en masse et nous accueillent par un concert de cris. Et en face de l'écran de faïence, un bloc, un autel de marbre à peine dégrossi, d'une simplicité brutale qui contraste avec les splendeurs du temple et de l'avenue, est dressé en plein air. Il supporte une espèce de brûle-parfum, fait en une matière tragique et inconnue, et deux ou trois objets symboliques d'une rudesse intentionnelle. On reste confondu devant la forme étrange, la barbarie quasi primitive de ces dernières et suprêmes choses, là, tout près de ce seuil. Leur aspect est pour causer je ne sais quelle indéfinissable épouvante. De même, jadis, dans la sainte montagne de Nikkō, où dorment les empereurs de l'ancien Japon, après la féerique magnificence des temples en lacs d'or, devant la petite porte de bronze de chaque sépulcre, je m'étais heurté au mystère d'un autel de ce genre, supportant deux ou trois emblèmes frustres, inquiétants comme ceux-ci par leur fausse naïveté barbare. Il y a, paraît-il, dans ces souterrains des fils du ciel, des trésors, des pierreries, du métal follement entassé. Les gens qui font autorité en matière de chinoiserie affirmaient à nos généraux qu'autour du cadavre d'un seul empereur, on aurait trouvé de quoi payer la rançon de guerre réclamée par l'Europe, et que d'ailleurs, la simple menace de violer l'un quelconque de ces tombeaux d'ancêtres eût suffi à ramener la régente et son fils à Pékin, soumis et souples, accordant tout. Heureusement pour notre honneur occidental, aucun des alliés n'a voulu de ce moyen. Et les écrans de céramique jaunes et vertes n'ont point été défoncés. Même les moindres dragons ou lotus, en saillie frêle, y sont restés intacts. On s'est arrêté là. Les vieux empereurs, derrière leurs murs éternels, ont dû tous entendre sonner de près les clairons de l'armée barbare et battre ses tambours. Mais chacun d'eux a pu se rendormir ensuite dans sa nuit, tranquille comme devant, au milieu de l'inanité de ses fabuleuses richesses.